À voix nue. Toute cette semaine, Claire Maillot rencontre Maurice Hollander. Ce soir, aux origines du racisme.
Maurice Hollander, bonsoir.
Bonsoir.
Hier, nous étions à Anvers, la ville de votre enfance, une enfance juive sans mémoire, où les langues, le verbe, la parole occupaient toute la place dans votre famille, où il vous a fallu apprivoiser les lettres pour sombrer définitivement dans l'érudition. Ce soir, nous nous retrouvons rue de Chevreuse, à Paris. Nous sommes en 1973 et vous faites vos premiers pas dans le centre de recherche comparé sur les sociétés anciennes, créé 10 ans plus tôt par le grand historien spécialiste de la Grèce antique, Jean-Pierre Vernant. Et dans ce temple interdisciplinaire, pluridisciplinaire, on y croise Pierre Vidal-Naquet, Nicole Leroux, Marcel de Tienne, peut-être d'autres, et vous, donc, vous avez la vingtaine, presque la trentaine, je crois. Qu'est-ce que vous espérez y trouver ?
Écoutez, quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, on fonctionne, comme on dit, un peu à l'intuition. Pas tout à fait, parce que j'avais lu les livres de Jean-Pierre Vernant, de Vidal-Naquet, de Marcel d'Étienne. Il faut dire que j'arrivais de Bruxelles, où, comment dire, j'avais terminé un premier mémoire, un premier morceau de thèse, disons, sur un petit dieu complètement difforme, bizarre, le dieu Priape, qui est sans cesse en érection, qui est le fils d'Aphrodite et de Dionysos, qui sont bien plus célèbres que lui. Et ce petit dieu, il est marqué, dans le monde ancien, par de la laideur. Et les professeurs d'archéologie que j'avais et de philologie m'ont fait comprendre que j'avais fait un drôle de choix. En réalité, c'est vrai, j'avais fait, d'une certaine manière, un choix de marginalité, prendre un dieu qui était dans les marges, c'est pas un grand dieu, les textes grecs et latins disent que c'est un tout petit dieu, et ils m'ont dit aussi que il était très laid, à quoi je leur ai dit que c'était bien vrai, les textes anciens disent qu'il est laid, et même difforme, il est marqué par cette difformité phallique dès sa naissance, et que pour essayer de penser quelque chose de la beauté, et de ce qui est classique, et de ce qui est conforme dans les mondes anciens, ça pouvait être intéressant de prendre un antimodèle. Bref, ça s'était pas très bien passé, et il y avait là une dame, Claire Préaux, très grand professeur, spécialiste de la période hellénistique, elle avait publié 2 volumes au PUF, et elle m'a dit, vous savez, votre travail était excellent, ils n'ont pas pu faire autrement, vous aviez, je sais pas quoi, 48 sur 50 ou autre chose, dans ces machins-là, mais ils n'ont pas aimé ce que vous avez fait. Et ils n'ont pas compris, d'ailleurs. Alors moi, j'ai un conseil à vous donner. Je suis une dame âgée et j'ai porté toute ma vie la mallette d'un grammairien. Je me souviens du jour où elle m'a dit ça, avant d'avoir droit à un cours, un grand cours, qu'un auditorium à l'Université de Bruxelles. Je vous conseille d'aller à Paris, aller voir, peu importe, m'a-t-elle dit, Vidal-Naquet, Marcel d'Étienne, Jean-Pierre Vernant, et vous vous sentirez mieux là-bas. C'est elle qui m'a expédié à Paris. J'avais lu Les Jardins d'Adonis de Marcel de Tienne, qui était publié juste avant que je ne termine mon travail bruxellois, qui racontait là aussi, autrement, l'histoire d'un dieu de la fécondité, en principe, Adonis, dont Étienne avait montré que c'était pas si simple que ça, une merveilleuse mythologie des aromates, c'était le sous-titre du livre, et où il montrait que ce dieu était stérile. Ça m'avait intéressé, cet antimodèle, et j'avais écrit à de Tienne qui, quand il m'a donné rendez-vous, je me suis retrouvé, vous l'avez rappelé il y a un instant, à la rue de Chevreuse, au centre de recherche comparé sur les sociétés anciennes. Ce jour-là, je connais personne, j'arrive à Paris, il m'accueille en me parlant de Michel Le Certeau, et non pas encore de l'écriture de l'histoire, mais de l'absent de l'histoire. C'est déjà pour vous dire, je viens voir un grand maître des études grecques, et il me parle de Certeau. On parle pendant plusieurs heures, et une fois il me dit « Oh là là, on est en retard, le séminaire de Jean-Pierre Vernant, c'était encore à la 5e section de l'école pratique des hautes études, vient de commencer, à peu près il me prend par le bras, c'était la première fois qu'on se voyait, il m'emmène dans sa voiture, et je débarque à l'école pratique des hautes études, où je vois Vernant, que j'avais jamais vu, bien sûr, jamais entendu, je l'avais lu, bien sûr, je le vois sur la scène, c'est-à-dire sur l'estrade, du coup, en train de boiter. Il parlait d'Édipe. J'étais et j'atterrissais dans un autre monde. Au fond, j'ai découvert par la suite, pas ce jour-là, qu'il pouvait y avoir de l'amitié, des affinités électives dans le travail. Et surtout, je découvrais quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque on n'en parlait pas, on le pratiquait, c'était la transdisciplinarité, de l'interdisciplinarité. Le fait, je vous donne un exemple pratique, je débarquais à un séminaire de Vernon, peut-être quelques mois après, il commençait son cours en nous parlant pendant 40 minutes de l'architecture soviétique. Pierre Vidal-Naquet à la rue Feuillantine, j'ai jamais oublié, il parlait de ces textes grecs. Non, ce jour-là, pendant plus d'une heure, l'analyse de La Combe-Lucien, le film de Louis Malle, en 74, il y avait une pratique des savoirs où entre science, littérature, cinéma, art, tout circulait et où, comment dire, on sentait toute la cohérence qui pouvait naître d'une esthétique, en effet, c'était une forme de savoir, d'une esthétique où on n'avait pas peur, je dirais pas de s'en mêler les pinceaux, mais où on n'avait pas peur, en effet, d'entrelacer les arts, les sciences et les savoirs. C'est ainsi que moi, c'est un regard singulier, j'ai perçu les choses au moment où je suis arrivé à Paris.
Cette manière d'entrelacer les savoirs, de faire dialoguer les disciplines, c'était la grande époque du comparatisme. Est-ce que c'est une méthode que vous défendez encore? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté?
Alors, le comparatisme, le fait de comparer les mythes, en effet, entre eux, les mythes venant de sociétés différentes, était très présent au centre de recherche. Comparé sur les sociétés anciennes, c'est comme ça que je rencontre des indianistes, Charles Malamud, des sinologues, Jean Lévy, Jean Bottero pour la Babylone, et Elena Cassin, bien d'autres encore, plus tard Jacques Lebrun, le christianisme, c'est-à-dire que on pense les cultures et, ici, les mythes, les uns par rapport aux autres, et la comparaison dont vous venez de me parler m'a très rapidement entraîné vers quelque chose d'étrange, peut-être, que j'essayais de mettre en œuvre dans les langues du paradis, et qui était d'étudier les savoirs et les sciences, en effet, comme si c'était des constructions mythiques.
Oui, parce que Maurice Hollander, on vous connaît plus comme un historien des religions, spécialiste du racisme. On vous associe moins à Jean-Pierre Vernant, sauf dans votre activité d'éditeur, mais on vous rapproche moins des grands hellénistes de l'école de Paris. J'aimerais comprendre comment vous avez cheminé vers ces questions-là qui se cristallisent au XIXe siècle. Vous avez amorcé la réflexion. Il me semble que c'est avec ce livre, Les langues du paradis, qui est un de vos grands livres, qui a été traduit en une douzaine de langues. C'est avec ce livre, en 89, que vous touchez quelque chose. Vous allez poursuivre votre étude des mythes, mais c'est la rencontre de ces mythes avec les savoirs nouveaux au XIXe siècle que vous allez analyser. Et vous allez explorer ces liens entre science et mythes qui vont former au XIXe un couple infernal. Si je le dis autrement et rapidement, vous avancez en historien des idées. Vous allez dévoiler comment certains discours savants ont permis de légitimer le racisme. Je voudrais revenir à ce que vous avez dit hier. Vous nous expliquiez hier avoir refusé de lire, parce que lire, c'était accepter l'alphabet qui avait permis la rédaction de lois génocidaires. Là, c'est presque le mouvement inverse. Vous coltinez les textes, vous allez les sonder, chercher, creuser les discours des intellectuels qui ont pu légitimer ces idées racistes. Est-ce que cette dimension personnelle, votre histoire personnelle, a pu rentrer en ligne de compte dans ces études d'histoire? Comment cette dimension personnelle, elle a nourri votre réflexion? Est-ce que vous l'avez écartée?
Non, je pense, mais c'est aujourd'hui que ça m'apparaît ainsi. Je pense que cette dimension personnelle, elle est immense. D'abord parce que, comme beaucoup d'autres, je me suis trompé d'époque. Mais ça, je l'ai compris bien plus tard, quand je dis que je me suis trompé d'époque, c'est-à-dire que au XIXe siècle, un grand nombre de chercheurs, de savants, nés dans des familles juives, avaient choisi comme domaine d'étude, ce qui était le plus loin possible de l'hébreu et de leur enfance juive, que ce soit James Darmstetter, professeur au Collège de France, pour l'indo-iranien, plus tard Sylvain Lévy pour le sanskrit, bien d'autres. Et sans m'en apercevoir, j'ai fait quoi ? Né dans un petit monde et dans une enfance juive, quand je me suis mis à travailler à l'université en archéologue, j'ai choisi un dieu, non seulement un dieu très visible, qui avait un sexe en érection sans cesse, Priape, mais face au dieu invisible, silencieux, sans nom de la Bible et de l'Ancien Testament, je prenais une forme grotesque pour essayer de comprendre les dieux. Ça, c'est une chose. Mais lorsque vous me posiez la question du racisme, lorsque je me suis mis à lire les textes de ces professeurs au Collège de France, si je pense à Darmstetter notamment, bien avant l'affaire Dreyfus déjà, concernant l'histoire des races, ils voyaient apparaître cette notion de race qui leur paraissait extrêmement dangereuse. Et c'est vrai que en lisant les textes ou ses auteurs, mais je pense ici à Darmstetter, mais à Renan tout autant, lorsqu'ils disent qu'au fond la guerre entre les êtres humains, il y a toujours eu des guerres, la guerre, elle survient et elle se développe dans un régime temporel, elle a un début, un milieu, une fin. Et puis ils ajoutent, c'est Darmstetter, dans les années 1880, et ajoute, si un jour il devait y avoir une lutte entre des races, ce ne serait plus, je le cite, une guerre, mais une extermination. Voici la phrase que je vous donne qu'il écrit, Darmstetter. Par ce mot race, toute lutte prend un caractère de haine intime et inexpiable parce que les combattants se persuadent qu'il y a entre eux non pas une hostilité d'un instant ou un accident, mais quelque chose d'irrémédiable et de fatal. La guerre entre eux, lorsque ce sont des races et non plus des êtres humains, je dirais la guerre entre eux est inévitable et éternelle, et ainsi de suite. Évidemment, ça m'a frappé parce que nous sommes près d'un siècle avant l'invention de la notion de génocide, avec des guerres d'extermination, au fond, qui n'étaient plus des guerres, parce que y a-t-il eu, quand il y a génocide, il n'y a pas guerre, si vous voulez. Je prends ces exemples concrets d'abord pour rappeler que ce qu'il y a de très désolant lorsqu'on s'occupe de l'histoire moderne de la race, ce sont plusieurs choses. D'abord, on découvre, et vous y avez fait allusion il y a un instant, que les idées de race sont des inventions académiques. Ce sont des inventions académiques, des choses qui s'inventent à l'université. Toute la raciologie du XIXe siècle. Mais l'autre chose qui est encore, je dirais, plus troublante, c'est de se rendre compte, et ça ne se dit pas assez, que tous les grands savants, énormément de grands savants au XIXe siècle, que ce soit le fondateur de la grammaire comparée, Bopp, que ce soit Gaston Paris, que ce soit Saussure, énormément de savants se sont opposés, je viens de citer James Darmstetter, se sont opposés à l'idée de race en disant « il y a là un danger social énorme ».
Vos enquêtes, elles consistaient d'une certaine manière à pénétrer dans le laboratoire des sciences humaines pour essayer de comprendre ce qui avait pu, à un moment donné, légitimer ces idées racistes. Donc vous posiez sur ces textes-là et ces discours savants un regard critique, une approche, un regard intempestif sur ce qui se produisait au sein des sciences sociales au XIXe siècle. Est-ce que de pointer ces errements-là, ça vous rend modeste ? Comme chercheur.
Oh, ça me rend aussi désespéré.
Est-ce qu'on peut dénoncer sans juger, Maurice Hollander ?
Je ne pense pas que je sois intéressé par dénoncer quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre, enfin ce qui m'intéresse, nous sommes nombreux, les chercheuses et les chercheurs qui travaillent sur ces domaines ou d'autres, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre et d'expliquer, pas de dénoncer. Y compris les affaires de l'appel à la vigilance, c'était pas de la dénonciation, c'était d'essayer de comprendre. Et ici, ce que j'essayais de comprendre, parce qu'il y a des choses très, très amusante, apparemment, superficiellement amusante, quand on s'occupe des langues du paradis, c'est de voir comment, à partir du XVIe siècle, les auteurs les plus sérieux, des théologiens quelquefois, mais souvent des philologues, et puis des savants, et puis Voltaire lui-même, quand Voltaire dit qu'Adam et Ève y parlaient le sanskrit plutôt que l'hébreu, toutes les langues européennes sont devenues des langues du paradis. Je veux dire que les auteurs des XVIe, XVIIe siècle ont construit des systèmes d'explication avec de la syntaxe et de la grammaire pour essayer de prouver l'un que c'est le flamand, l'autre que c'est le suédois, l'autre que c'est le français ou l'italien, qui était la langue des origines. Ce, si vous voulez, ce qui rendrait modeste n'importe quel savant, c'est que tous ces auteurs auxquels je pense, et que je ne vais pas nommer, mais il y a Leibniz parmi eux, étaient de vrais savants qui ont réellement apporté à nos savoirs et aux sciences humaines et aux sciences sociales telles qu'elles sont devenues aujourd'hui énormément de choses. Et en même temps, ils déliraient complètement. C'est dire que quand on... Voilà, oui, peut-être que vous aviez raison, finalement.
Ça... Ils déliraient.
Ils déliraient et on doit rester... modeste.
Parce que j'aimerais revenir quand même à cette question initiale, liminaire, dans les langues du paradis. Vous l'avez un petit peu évoqué. C'était un projet très ambitieux, puisque vous essayez de revenir sur cette interrogation qui a animé toute la communauté scientifique au 19e, qui était: quelle langue parlait Adam et Ève au jardin d'Éden? C'est assez vertigineux comme question. Quelle méthode vous avez adoptée?
La méthode, c'est simplement de lire les textes. Mais vous voyez là encore, c'est un livre, Les langues du paradis, qui démarre globalement à la fin du XVIIIe siècle, au moment où l'Occident découvre le sanskrit. Alors, en deux mots, les pères de l'Église rêvaient, ils ne lisaient pas l'hébreu. Jérôme et quelques autres, mais globalement, saint Augustin se vante de ne pas connaître l'hébreu. Et il se demandait tout le temps, en quelle langue Dieu a-t-il dit fiat lux? Dieu a dit fiat lux en hébreu. L'hébreu, il ne connaissait pas. Et donc, les pères de l'Église qui ont vécu en grec et en latin, l'hébreu, globalement, dans la chrétienté, est redécouverte par la Réforme au XVIe siècle. Je vais très vite et c'est très schématique. Bien sûr, il y a des hébraïsants avant dans le monde chrétien. L'hébreu aura été la langue du paradis à l'intérieur même des traditions chrétiennes. Il faut souligner que les juifs, les hébreux anciens, ou les juifs avant le XIe ou XIIe siècle, ne s'occupent absolument pas d'une langue du paradis. Et moi, quand je démarre au XVIIIe siècle, je me retrouve avec la confrontation entre le sanskrit qui vient d'être découvert dans le monde académique occidental et l'hébreu que tout le monde connaissait, et où en effet... les savants se disputent entre eux pour savoir si le sanskrit qu'ils appellent aussi aryen ou l'hébreu, qu'ils appellent aussi une langue sémitique, était la langue originaire. Or, vous le savez, on le sait, lorsque quelqu'un revendique une origine ou une autochtonie supérieure à la vôtre, lorsqu'il vous dit « moi je suis ici depuis toujours et toi tu débarques maintenant », c'est pour le dominer. Et donc, évidemment que dans... le conflit entièrement scientifique et théorique au XIXe siècle, disons globalement avant les années 1880 et plus tard l'affaire Dreyfus, le conflit entièrement théorique et linguistique entre Aryens et Sémites, il véhiculait des choses bien plus inquiétantes. Lorsque vous me demandez quel était le regard que je portais sur ces savoirs, sans doute, oui, que... j'ai été formé, on l'a dit, Jean-Pierre Vernant, Marcel Détienne, Vidal Naquet, plus tard Nicole Leroux, d'autres, François Hartog, des amis, des collègues, à l'analyse des mythes. Et lorsque je me suis mis à lire des textes, qui étaient des textes qui construisaient l'idée, les idées, qui sont très diverses, de race, eh bien oui, je les ai approchés comme si c'était... des constructions intellectuelles qu'elles ont été, mais des constructions intellectuelles mythiques.
Et pour autant, vous n'avez pas de vision manichéenne de cette histoire-là, puisque je crois dans un de vos livres, Race sans histoire, vous avez deux chapitres. Un chapitre qui concerne l'insoumission, avec des figures qui se sont élevées contre ces constructions imaginaires, et puis ceux qui se sont tus. Est-ce que ce couple, insoumission, silence, c'est quelque chose qui vous a saisi quand vous vous êtes emparé de ce sujet-là.
Oh, le silence, c'est un grand sujet sur lequel je travaille encore maintenant, puisqu'en effet, la fin de Race sans histoire, enfin, de ce volume-là, aux éditions du Seuil, dans la petite collection d'essais, de points, concerne le silence d'une génération de savants et d'intellectuels dans l'Allemagne nazie, Jauss, Gadamer, Heidegger, dont on a beaucoup reparlé depuis la découverte et la publication des Cahiers Noirs. Mais prenons un exemple pratique entre mes recherches et l'édition, et qui peut être parlant par rapport aux questions que vous venez de me poser. Lorsque, en Italie, c'était Umberto Eco dans sa collection, a souhaité traduire « Race sans histoire », l'un des éditeurs de « Race sans histoire », un grand patron d'édition italien, m'a dit « Pardonnez-moi, je vais sans doute pas lire votre livre, mais est-ce que vous pouvez me dire très simplement et en deux mots, il y a quoi dans « Race sans histoire » ?» Alors là, vous êtes face à ça, c'est pas plus simple qu'à la radio, comme ce soir. Je lui ai dit « Écoutez, mais là, c'est très, il faut me pardonner, c'est extrêmement schématique, simplissime. Toute société se donne des règles pour légitimer ce qui est vrai ou faux. C'est quoi la vérité ? Globalement, pour aller encore une fois très schématique, très rapidement, ben, la vérité, c'est soit Dieu, soit le roi, c'est vrai, au nom de Dieu, au nom du pouvoir politique, c'est vrai, ça peut être vrai aussi au nom de la nature, si on n'est pas trop du côté de la religion. Et puis, je lui ai dit, voilà, ça dure comme ça. Et puis, au XIXe siècle, on passe d'une vérité au nom de Dieu à une vérité au nom de la science. Et on va passer également de cette chose très ancienne qui s'appelle le destin, Dieu avec son doigt providentiel, il dit le destin du peuple français, le destin du peuple hébreu, le destin des Arabes, c'est ceci et cela. On va passer de quoi ? On va passer du destin à la race. On va dire que la race est ce qui détermine une collectivité. Alors cet éditeur italien, c'est Mario Andreozzi, autant dire son nom, c'est un homme merveilleux, il me dit « Quel beau titre !» Race et destin. Sur le coup, mon bouquin qui s'appelle Race sans histoire français est devenu Razza e destino chez Bompiani en Italie. Et c'est vrai, mais on va pas développer ça ici ce soir, que j'y ai rajouté tout un chapitre sur les cahiers noirs de Heidegger où il y a partout et tout le temps énormément de présence de ce couple race et destin qui est un autre couple. C'est pas Arien et Sémite, mais il le recoupe.
Au fond, Maurice Hollander, on parle de différents livres, on parle d'une démarche qui vous a amené à réfléchir au racisme, à la construction de la race, construction intellectuelle de la race. On a parlé de vos études sur le travail ou les études des philologues au XIXe siècle, sur la langue des origines. Est-ce qu'au fond, ce qui réunit toutes ces études, ce serait pas la notion d'altérité? C'est comme ça que je vous ai présenté au début de la semaine. Je disais que votre grand motif de réflexion, c'était l'altérité. Est-ce que c'est juste de dire ça?
Alors, c'est juste à plusieurs titres. D'abord, d'une manière très concrète, simple, Françoise Héritier nous l'a expliqué, notre première altérité, c'est l'autre sexe. Bon. Comme enfant. L'autre également, un autre type d'altérité, c'est celle ou celui qui parle une autre langue, ce que les Grecs appelaient les barbares. Chez les Grecs, il n'y avait pas de race. La catégorisation de l'autre passait par la langue. Vous savez, quand les gens vous disent « oui, mais c'est naturel, c'est normal, on est tous différents, il y a des races différentes », la seule réponse qu'il faut faire, là, me semble-t-il, c'est que nous sommes tous différents, et c'est une chance. Mais la race est une invention très moderne comme différence. On peut en effet parler des langues différentes, avoir des couleurs de peau différentes, des tailles différentes, des cultures différentes. La race est quelque chose de très spécifique. Les gens n'ont pas l'air de se rendre compte que de raciser un groupe, c'est de l'enfermer à tout jamais, de lui dire « tu es comme tes parents, tes grands-parents, comme tes enfants et tes petits-enfants seront ». La race est une machine à expulser le temps de l'histoire. Et c'est pourquoi la rencontre entre race et destin est une chose qui fonctionne, hélas, si bien.
Vous avez dit aussi, je crois, dans une des présentations de votre livre, et ça va nous amener directement à notre émission de demain, à évoquer vos engagements, que le racisme n'a nul besoin d'être fondé pour être. Je vous cite, « Affirmation catégorique, aussi absolue qu'indémontrable, le racisme a toutes les allures d'un axiome. Compréhensible par tout le monde, sans être admis par tous, le racisme est une notion d'autant plus efficace qu'elle est confuse, d'autant plus dynamique qu'elle se pare de l'évidence. » Quel est votre rôle aujourd'hui, comme historien du racisme, dans la période contemporaine ?
J'aimerais que ce rôle existe, je parle pas pour moi, mais pour toutes celles et ceux qui travaillent, qui essayent d'éclairer les choses à ce propos. Je ne suis pas sûr que les savoirs qui déconstruisent les systèmes, j'allais dire de barbarie, les systèmes qui mènent à de la violence, soient très efficaces. Pour une raison très simple, on est, vous le savez, dans le champ philosophique, en train de découvrir qu'une œuvre qui a l'importance de celle de Heidegger, quand je dis l'importance, moi je ne suis pas philosophe, je n'ai bien sûr pas lu les 100 tomes ou plus des œuvres complètes et en devenir encore de Heidegger, mais bon, Heidegger est une œuvre qui a compté pour énormément de philosophes qui nous sont proches, comme Derrida ou d'autres, mais qui a également compté pour des architectes, des mathématiciens. Bon, donc on ne peut pas dire que c'est rien. Or, Peter Travny nous montre qu'au cœur de cette œuvre, dans la pensée même de l'être chez Heidegger, il y a de l'antijudaïsme. Et donc, la question que vous me posez, vous la posez très clairement, y répondre, c'est très... C'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, mon rêve serait que toute parole publique, ce à quoi on s'exerce en ce moment même, et c'est difficile quand on est en direct ou quasiment à la radio, d'être attentif à chaque mot, de savoir que l'être humain s'exprime par des mots et que les mots sont porteurs de douceur comme de violence, mais les mots, ce sont des choses très efficaces. Et je pense que c'est très 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 compliqué.
Merci Maurice Hollander.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Claire Maillot avec Maurice Hollander. À voix nue, réalisation Doria Zénine, prise de son Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. Les émissions s'écoutent en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.